vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur.
Il y a des corniches. Et puis de toute façon, elle n'a plus rien à craindre. Elle n'a plus rien à perdre. Elle tente le coup, fait des choses, jette dans le parc et monte sur le rebord de la fenêtre. Là, elle n'ose pas regarder. Tend la main pour prendre une moulure en forme de rond qui va jusqu'en bas. Elle se met les deux mains sur la moulure et se laisse glisser jusqu'à la fenêtre suivante. Et ceci jusqu'au rez-de-chaussée. Elle tremble, elle a peur, elle est en sueur. Enfin, ses pieds touchent terre. Elle lâche la main. Malheureusement, des chiens accourt vers elle. Elle panique, se met à courir autour de la maison. Les chiens lui courent après. Tout à coup, elle court. En courant, elle tombe en plein devant Madame Pipe. Elle est prise entre les chiens Madame Pipe. Elle se serre dans les bras de Madame Pipe. Couchez les chiens. Couchez. Couchez. Madame, vous allez retourner à votre chambre. Elle prend fermement Pauline par le bras et la mène dans le manoir. Dans le couloir, elle rencontre le marquis. Madame Pipe lui dit, elle a tenté de s'évader. Sortie par la fenêtre de sa chambre. Il faut le faire. Je vous avais dit, monsieur le marquis, que c'était une sacrée garce. Ah, nous n'avons pas fini avec elle. Elle emmène à sa chambre Apolline, apeurée, tremblante.
Ouvre la porte. La pousse dans sa chambre. Ferme la porte à clé. Apolline effondrée. Couche sur son lit.
Tout à coup, une image lui vient. Un visage, celui de Sylvain. Elle se maudit d'avoir refusé ses avances. Lui au moins, il est jeune, beau, gentil, et il m'aime. Pauvre Sylvain. Et moi, pour être riche, je l'ai refusé. Nous aurions vécu à Lyon. J'aurais eu ma famille près de moi, mes frères. Maintenant, je suis prisonnière d'un vieux fou. À milieu de chez moi. Le mariage d'Apolline a beaucoup attristé Sylvain. Jules va souvent le voir. Il le retrouve dans sa chambre, qu'il ne quitte plus. La domestique amène Jules jusqu'à la chambre.
Entrez. Elle fait entrer Jules, ferme la porte. Sylvain est allongé, ne quitte plus son lit. Jules s'approche de lui.
Il voit qu'il a encore les yeux fiévreux. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Toujours la même chose. Il lui caresse le front. Il aime ce front lisse et doux. Puis, va s'asseoir sur une chaise
près du lit.
Et lui dit, écoute Sylvain, je ne supporte pas que tu sois malade. Tu sais, ma sœur n'en vaut pas du tout la peine. Elle n'est pas si bien que ça. C'est une calculatrice qui sait ce qu'elle veut. Si elle s'est mariée, c'est pour avoir l'argent du marquis et se libérer de la famille. Pendant que tu es là à pleurer, elle est dans un grand château entourée de domestiques qui la parent comme une reine. Et un vieux marquis qui est fou d'amour pour elle. C'est ton temple de la regarder comme une œuvre d'art. Elle le tient. Par le bout du nez, son marquis. Elle voulait un homme à ses pieds, elle l'a eu. Tu m'écoutes, Sylvain? Sylvain lui dit, qu'est-ce que tu en sais? Tout ce que tu dis, c'est pour m'aider à guérir. Mais ce n'est peut-être pas vrai. Si, je t'assure, parce qu'elle me l'a dit, moi aussi j'aurais préféré qu'elle te choisisse. Je lui ai dit, elle m'a expliqué ce qu'elle voulait. Sylvain lui demande, pourquoi a-t-elle tant besoin de luxe alors que chez vous, elle vivait assez modestement? Je lui réponds, c'est pas de luxe dont elle a besoin, mais d'argent. Apolline aime l'opium. Sylvain ne dit rien. Jules lui prend la main et lui caresse doucement, tout doucement, tendrement. D'un geste brusque, Sylvain la retire. J'aime pas quand tu me touches, ça me fait aurore. Je l'ai mort de honte de savoir que Sylvain connaît ses désirs. Sylvain continue. Tu feras mieux de t'en aller. J'ai pas envie de te voir. Jules se lève, penaud, triste. Au revoir. Sylvain ne répond pas. Jules quitte la pièce. À sortie de l'immeuble, il est triste, accablé, triste. Il décide de rentrer chez ses parents. J'ai trop parlé. C'est de ma faute. J'aurais dû ne rien dire. Il ne se serait pas énervé. Avant de lui parler, il a accepté que je lui caresse le front. C'est après que ça l'a énervé, que je dise du mal de ma sœur. J'aurais pas dû. Mon Dieu, que faire? Et dire que c'est la faute de cette garce. Cette garce. Arrivé chez ses parents, il va directement à sa chambre, son refuge pour les malheurs, sa façon à lui de quitter le monde. Une fois dans sa chambre, il va s'allonger sur son lit. Et s'il ne veut plus me revoir, mon Dieu, ce serait terrible. Que vais-je devenir s'il ne veut plus? J'ai pas de chance. Si Sylvain me quitte, je connaîtrai jamais ce qu'est l'amour. J'ai besoin de tenir dans mes bras un être aimé, le sentir. Oh Sylvain, ce que j'ai connu avec ma sœur, c'était pas la même chose. C'était plutôt de la douceur. Qu'on se faisait en commun, l'amusement de connaître l'autre sexe. Même à cette époque, je croyais avoir un profond sentiment pour elle. D'ailleurs, avant elle, je connaissais j'aimais des garçons. Oh Sylvain, ne me laisse pas tomber. Sans toi, il n'y a plus de joie. Ne nous affolons pas. Demain, j'irai le voir. Sa colère doit être passagère. Il n'y pensera plus. Oui, demain. Pour arriver plus vite à demain, ferme les yeux, fatigué. La peine, au bout de quelques minutes, l'endort. Le lendemain, par un temps qui est devenu tout d'un coup froid, avec un vent glacé, Jules va sonner chez Sylvain. La domestique lui a ouvert. J'aimerais parler à Monsieur Sylvain Lupin. Monsieur Sylvain, me dites-vous dire qu'il ne voulait pas vous recevoir. Je suis navré, monsieur. Merci. Et il s'éloigne. Derrière lui, il a entendu la porte qui s'est refermée. Dehors, Jules se dit, c'est fini, il marche, il fait très froid, un vent glacé traverse ses vêtements, malgré ses gants, il a l'onglet, il n'a pas envie de rentrer. Il n'y a personne dans les rues, Jules avance péniblement, à cause du vent, il pleure sur lui-même. Je ne serai jamais heureux. Personne ne m'aimera. Il marche sans s'en rendre compte pendant une heure. La nuit est tombée. À cause du froid et du vent, sa bouche est sèche. Il a de plus en plus soif, il passe devant un petit café ordinaire, d'une petite rue ordinaire qui se trouve en bord des portes de la Croix-Rousse. Il entre dans le café. La salle est petite, sombre, enfumée. Elle sent le mauvais vin, la cigarette et l'humidité. Il y a quelques clients qui fument et boivent au milieu de la pièce, un poêle à charbon. Au comptoir, un gros homme à casquette, à tablier et cigarette aux lèvres. Jules va au comptoir.
Et pour monsieur, qu'est-ce que ce sera ?
Jules n'ose pas demander un café ou un thé dans cet endroit. On le prendra pour une femmelette. Un verre de vin, s'il vous plaît.
Du Beaujolais ?
Oui, si vous voulez. Le bistroquet voit qu'il n'y connaît rien. Il prend un litre sans étiquette. Elle sert. Jules a tellement soif qu'il boit d'un coup. Ça ressemble plus à du vinaigre qu'autre chose. Je ne veux pas déchirer la bouche. Un autre, s'il vous plaît.
Ah, il vous plaît celui-là. C'est du bon. Il vient de ma cave privée. Je ne le sers qu'à ces messieurs.
Je ne dis rien. Il se dit qu'il doit le prendre pour un imbécile. Et il lui remplit son verre. Il le boit. Cette fois, il se sent mieux. Une douce chaleur envahit son corps. Il a chaud à la tête et aux oreilles.
Encore un autre.
Le cafetier ahuri le serre.
J'ai jamais vu ça.
Au bout du troisième, il se sent sûr de lui et même un peu joyeux. Mais là, il est prêt à tout. Mais il a une légère nausée.
Vous en voulez un autre ?
Non, merci. Jules sort des pièces de sa poche de son manteau pour les mettre sur le comptoir. Et s'éloigne.
Et la monnaie, gardez tout, merci.
Et il sort du café. Il fait nuit et toujours froid. Mais il le sent moins. Il se remet en marche en se disant, puisque personne ne veut que je l'aime, est-ce que personne accepterait de faire l'amour avec moi ?
comme ça? Suis-je désirable? Suis-je tentant? Est-ce que l'on peut désirer mon corps? Comment le savoir? Avec ma sœur, c'était pas la même chose. Et puis c'était une fille, mais avec un garçon. Est-ce que je les attire? J'ai envie de le savoir. Comment? J'allais me mettre dans un coin et attendre. Il se met à rire comme un fou. Si mon père le savait, moi, en vente, même pas en échantillon gratuit. Il décide d'aller dans un endroit sur les quais du Rhône où c'est réputé pour ce genre de rencontres. Mais au fur et à mesure qu'il se rapproche du lieu, son idée devient plus sérieuse. Son corps se serre. Il a vraiment envie qu'on le désire. Et entrer ce plaisir spécial que l'on ne peut avoir qu'avec un autre. Des mains aimantes sur son corps que l'on trouve beau. Il arrive sur le quai du Rhône. Il fait encore plus froid. Le vent est plus fort. Il s'arrête presque en face d'une pistière. Les quais sont déserts. Et il attend, plein de désir, prêt à se donner. Malheureusement, il n'y a personne. Il attend un bon moment. Le froid est très vif. Mais grâce au vin, il le supporte mieux. Il voit arriver à lui un homme grand, mince, habillé d'une redingote marine. Il porte un chapeau. Il passe devant Jules en le regardant. Jules lui sourit. L'homme se penche et lui dit « Quoi ? Tu cherches quelqu'un ? M'excuse, mais j'ai pas le temps. C'est dommage. » Et il s'éloigne. Puis il revient et demande tout bas « Ce serait combien ?» Jules lui sourit aux ses épaules et lui dit « C'est pas pour ça, c'est pour voir, comme ça. » L'homme est surpris. « C'est vrai ? Mais pourquoi ?»« Parce que ça me fait plaisir. » »«
Ça ne t'ennuie pas de faire ça avec moi ?»«
Non, pourquoi ?»«
Parce que je suis vieux et pas très beau, alors que je ne veux jamais forcer personne, même si c'est pour de l'argent. » »«
Alors, ça ne t'ennuie pas ?» Que je sois vieux?
Non, bien au contraire.
C'est vrai?
Oui. Alors, tu veux?
Je ne sais pas. Il se fait tard, peut-être une autre fois.
Tu es de Lyon?
Oui et non.
Tu es souvent là?
Non. Alors?
Au revoir, bonne nuit.
Je lui dis. Ça dépend de...
Tu ne veux pas?
L'homme hésite, fait un pas et revient vers Jules. Et lui dit,
ma foi, si je ne te revois plus, je risque de le regretter toute ma vie. Tu sais où aller? Un endroit tranquille?
Non.
Et chez toi?
Non, c'est impossible. L'homme hésite.
L'on va chez moi?
Je ne dis pas non.
Oui, mais tu ne fais pas chanter.
Non.
Viens.
Et Jules le suit. Le vieux lui dit,
il y a une chose qui m'embête, c'est que j'ai été souvent attaqué.
Ne craignez rien, c'est juste pour le plaisir.
Si tu veux quelque chose, tu le demandes.
Mais je ne veux rien.
Je n'arrive pas à y croire. Un si joli garçon. Quel visage tu as. Et puis de ses yeux.
Je le souris. Ils ont quitté les quais du Rhône et s'enfoncent dans la ville. Les nouveaux quartiers.
Le vieux lui demande, tu as quel âge?
Je suis majeur.
C'est vrai?
Oui, je t'assure. Il fait toujours aussi froid, les rues sont désertes. Jules ne sait plus où il est, c'est pas facile de se repérer. Il est complètement gelé et a hâte d'arriver. Le vieux le regarde et lui sourit. Jules se dit qu'il doit être heureux, que ce doit être une chose extraordinaire pour lui.
Le vieux lui dit, moi, qui sais que je suis moche depuis l'âge de 6 ans, ça me fait tout drôle. D'avoir auprès de moi un si joli garçon.
Il arrive dans une petite rue faite d'immeubles neufs.
C'est là, troisième immeuble.
Je le suis. Le vieux appuie sur un bouton pour faire ouvrir la porte d'entrée. L'allée est grande, large, en marbre.
C'est au cinquième.
Il y a un ascenseur hydraulique qu'ils prennent. Arrivé au cinquième, le vieux va ouvrir la porte de son appartement, qui se trouve à gauche.
Entre. Il entre. Ouvre la porte. Le vieux
éclaire le plafonnier au gaz. L'entrée est claire, tapissée crème. Il y a deux portes, l'une en face de la palière et l'autre à droite. Celle qui est en face est à double battant et vitré. Je l'ai gelé et à l'onglet. La chaleur de l'appartement amplifie la chose, surtout l'onglet, et ça lui donne des nausées, comme s'il allait vomir. Le vieux le voit.
Tu es gelé, mon petit. Il faut que tu enlèves tes vêtements pour te chauffer. Viens, mon petit. Viens.
Le vieux va ouvrir la porte de droite. Je le suis. Il longe un petit couloir, deux portes, à droite, une à gauche et une en face. Le vieux ouvre celle qui est à gauche. Entre. Jules entre.
C'est une chambre avec un lit à deux places, armoire, commode, table de nuit, style Louis-Philippe d'époque. Jules tremble tout. Le vieux quitte sa redingote et son chapeau qu'il va mettre dans l'armoire. Puis, il va vers Jules, lui enlève son manteau. Il l'aide à l'enlever. Le vieux le pose sur le lit.
Déshabille-toi maintenant.
Tout nu?
Non. Reste en caleçon.
Le vieux va à l'armoire. Il prend une robe de chambre bleue. Jules est en caleçon. Il tremble tout. Le vieux va vers lui pour lui passer la robe de chambre et le frotter.
Mon tout petit.
Avec la ceinture, il l'enroule bien dans la robe de chambre. Le frictionne bien. Puis prend le manteau pour le mettre dans l'armoire. Il va vers Jules.
Viens t'allonger.
Il aide Jules à s'allonger sur le côté. Il enlève ses chaussettes et lui frictionne les pieds. Puis, il le recouvre de sa couverture. Il se penche vers lui.
Il caresse ses cheveux. Que tu es beau. On dirait un bébé. Un tout petit bébé.
Tu te réchauffes un peu. Un peu, oui.
L'on fera quand tu iras mieux.
Jules sourit. Le vieux le frictionne sur tout le corps. Jules sent la chaleur de ses mains, ça lui fait du bien. Le vieux descend, mais laisse un espace entre le corps et les jambes pour ne pas toucher les fesses.
Ça te fait du bien?
Oui. Le vieux lui donne un baiser. Il continue à le caresser par-dessus sa robe de chambre.
Malgré lui, grâce à la chaleur et aux caresses,
Jules commence à bander. Il sent que d'après les caresses du vieux, lui aussi commence à avoir de l'effet. Le vieux lui dit
« Tu es bien ?»
Oui. Alors le vieux passe sa main sous la robe de chambre, et le recouvre de la robe de chambre, s'allonge près de lui, se plaque contre lui. Jules dort et sent que le vieux le caresse un peu partout en lui donnant des baisers. Puis, Jules s'endort profondément. Il rêve qu'il a un fils, un enfant beau comme un dieu. Il tend les bras pour le toucher, Mais l'enfant s'éloigne. Il court au même endroit où Jules a rencontré le vieux. Puis, Jules voit une chambre où son fils endormi dans un lit avec un autre. Il lève la main. Sa main tient au couteau. Jules se réveille en sueur. Voit qu'il a une robe de chambre qu'il ne connaît pas. Il reconnaît le vieux qui reprend. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la création, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.